C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Nous ne savons pas où nous mènent nos pas. Nous ne savons pas où commence l'aventure ni où elle finit. Elle commence à un certain endroit et finit plus loin, en un lieu précis, à une heure précise, un jour précis. J'ai essayé de donner aux miens à lire l'avenir et à lire l'avenir moi-même. Mais je ne savais pas à qui j'étais. C'est un spectacle qui s'appelle Clandestiland, où on raconte. Là, on porte le manteau des clandestins, parce que là, pour moi, ce mythe-là fera partie, du moins, ce vécu-là fera partie des mythes du futur, c'est-à-dire arriver, se cacher, être clandestin. Et si on se pose la question, quels sont les êtres les plus nus sur Terre?
Les plus nus,
ce sont les clandestins. Et parmi les clandestins, les clandestines. J'ai un ami, Smaïn Lacher, qui travaille sur ce sujet-là pour l'UNESCO, l'ONU. Et donc, il travaille aussi bien à la frontière mexicaine qu'en Libye, dans les centres de rétention. Il pense la même chose, ce sont les femmes, parce que sur le chemin, celles qui subissent le plus de violence, et c'est les âmes les plus nues sur Terre, quoi.
Les plus nus de la Terre sont les clandestins, et parmi eux, les clandestines. Bonjour, c'est Charles Cécile, bienvenue à tous dans ce bistrot parisien, tout près de la Bastille, pour le deuxième volet de l'entretien mené par Angèle Bonuchot auprès de Ahmed Bouzine. Ahmed Bouzine est l'un de cette poignée de gens importants qui, en France, ont remis au goût du jour l'art millénaire des conteurs et du conte. Alors, ceci ne l'empêche pas du tout d'être très bien ancré dans le présent, vous allez vous en rendre compte.
Des sujets comme ça, à Lille, là par exemple, qui est dans notre compagnie Les Murmures du Monde, ça fait 7 ans par exemple qu'on travaille sur la paillade à Montpellier, et lui 5 ans, moi j'ai travaillé 2 ans, mais cette année il vient d'obtenir le prix, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Talent d'Or, et il vient d'être reçu à l'Elysée parmi les 3 projets, et ils ont travaillé sur les vieux qui restent ici aujourd'hui en France et qui ne retournent plus chez eux, les Chibani, on les appelle les Chibani, ce qui veut dire les cheveux blancs. Avec des collégiens, de la paillade, ils sont allés interviewer ces vieux en leur posant les questions essentielles. Pourquoi tu restes ici? Pourquoi tu ne retournes plus chez toi? Et nous-mêmes, ça fait très longtemps qu'on... Bon, c'est des projets là, qu'on a déjà fait aussi. Et la réponse, c'est que je n'ai plus de place chez moi. Les vieux de chez moi ont grandi sans moi. Et je n'ai plus de place chez moi. Et ma place est ici. Et ils sont dans une solitude. Et dans Folie Berbère, on raconte ça à travers...
Tu m'en parlais tout à l'heure.
Entre un oncle et son neveu. L'oncle, il est tout seul. Il a toujours vécu dans les foyers Sonacotra. Et il va rencontrer ce neveu qui est né là. C'est un dimanche. Et il doit le rencontrer et... Il est tout seul, il va lui faire un couscous, et l'autre il dit, je vais voir mon neveu, et 10 minutes après, je vais me faire un McDo, vite fait, bien fait, quoi, tu vois. Donc c'est toute cette rencontre entre deux générations qui, on a l'impression qu'elles ne comprennent pas, quoi. Là, qu'elles ne comprennent pas du tout, tu vois, c'est...
je me
me souviens plus du tout de ce spectacle, mais je me souviens de la... je l'ai vu à Vendôme, oui. Et je me souviens d'avoir vraiment beaucoup ri.
Oui.
De justement ces décalages.
Oui, ce basculement total, ouais, ouais. Qui est. C'est à la fois, on a monté ce spectacle parce qu'on en a marre que d'être dépossédé de notre histoire, oui, d'être dépossédé de notre histoire, quoi, tu vois. Et puis de l'autre côté, parce que c'était, on l'a fait sans période d'élection, et par exemple, on savait que on ressortirait le mouton dans la baignoire, tu vois. Elle y raconte le mouton dans la baignoire avec ce père qui convoque ses enfants et qui leur dit, voilà, je vous ai jamais rien transmis. Et donc, là, comme il y a toujours eu un mur d'incompréhension entre vous et moi, ben, je vais vous transmettre un rituel. Nous allons égorger le mouton dans la baignoire de notre salle de bain. Et là, il y a un enfant qui dit, excuse-moi, papa, moi, ce jour-là, j'ai rendez-vous avec les copains du PS, donc j'ai rendez-vous avec les éléphants, pas avec les moutons. Le second, il dit, quoi, papa, hein, tu vas égorger quoi, une gazelle? Nadine et moi, on est devenus végétariens, bientôt végétaliens. Et puis on en fume de la bonne, tu sais. Hein, je crois que tu devrais te payer un cours de yoga. Et puis le troisième, il dit, écoute, papa, moi, hein, tu sais, c'est moi le plus sensible parmi tous tes garçons. Et dès que je verrai un peu de sang, je vais m'évanouir. Je viendrai avec une copine, elle s'appelle Ahmed. Hein, et tous les deux, on va faire la vaisselle et puis on fera une salade de fruits. Parce que ta viande de mouton... c'est un peu lourd à digérer. Et le troisième, il dit, quoi, papa, tu veux qu'on tue un mouton? Qu'est-ce que tu veux signifier par là? Que les enfants tuent le père? Tu vois? Le père, il n'y comprend rien. Hein, mais c'est aussi ça, l'émigration, c'est-à-dire l'intégration. Hein, aujourd'hui, là, je dirais, parmi les fils des émigrés, y a toutes sortes de gens... des artistes, des intellectuels, des chefs d'entreprise, des dealers, et ça, on ne peut rien, c'est comme ça. Hein, et comme le dit Ali, là, dans cette émission, qui veut gagner des millions, la réponse D, l'enfant des banlieues, c'est le français de demain, où ça ne l'est pas.
Ah oui, vous aviez une roue, c'est ça?
Oui, on avait une roue.
Hein, et donc.
Il y avait tous les personnages de notre spectacle. Hein, et c'est la roue de la vie, la roue des destins. Hein, et donc, c'est comme une roue de la fortune. Hein, et donc, à partir de cette roue-là, raconter une histoire entre 1962, c'est-à-dire l'année où moi je suis arrivé en France, et puis 2002, l'année où j'ai entendu une histoire d'un enfant du quartier où vit ma sœur en plein désert qui s'est noyé dans le détroit de Gibraltar, quoi. C'est-à-dire un cycle entre une immigration qu'on est venu chercher et puis un miroir aux alouettes des pays d'Occident aujourd'hui, quoi, tu vois. Hein, parce que ça signifie mettre sa vie en grand danger. Il y a eu quand même 12 000 morts dans le Détroit, tu vois, c'est énorme. Et de l'autre côté, vivre une vie de clandestin. Mais il y a aussi aujourd'hui... tous ces diplômés au Maroc, c'est-à-dire qu'au départ, c'était des gens qui venaient de la ruralité, analphabètes, alors qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont diplômés, quoi. Et puis aussi, des mômes là, qui veulent tenter leur chance, quoi.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
Après, à travers le cinéma, parce qu'il ne faut pas oublier que le conte est même est plus proche du cinéma que de la littérature aussi. Hein, tu vois
ça, ouais. À cause des images.
À cause des images. C'est-à-dire que, ben, je ne sais pas, il y a ce film espagnol, Blanca Nieves, qui se passe ici et maintenant, et qui est très contemporain, ou ce qu'a fait Jacques Demy avec Podane, hein, la fin du mariage en hélicoptère et qu'il soit chanté, c'était aussi très contemporain. Tu comprends, il y a un traitement qui peut être très contemporain, qui peut donner la même dimension que le conte traditionnel, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir compris, il faut être un broyeur de sens, comme on dit chez moi.
Broyeur de sens.
Ouais, un broyeur de sens, c'est-à-dire avoir compris le sens du récit traditionnel et avoir compris la nécessité de ce sens dans la société contemporaine. Hein, tu vois.
Je t'ai pas demandé, tu écris ?
Oui. Oui, oui, oui.
Tu travailles comme ça ? Tu travailles en écrivant d'abord ou bien en improvisant d'abord ?
En improvisant d'abord. Non, c'est toujours... Ça dépend, j'ai les deux. Hein, par exemple, pour l'envol des oiseaux, tiré du langage des oiseaux d'Attar, tu pars d'une écriture, d'une adaptation. Au même titre que Majnoun et Leïla, tu pars d'une adaptation. La proposition, elle doit toujours être renouvelée. C'est ce qui en fait un art contemporain. Si on, il ne faut pas s'arrêter, tu vois, c'est là où... Oui, c'est ça, c'est-à-dire tu remets en cause à chaque fois, tu te remets en cause dans la création. Sinon, en quoi ça sert si tu t'amuses à te répéter en permanence? Tu ne dois pas oublier, je veux dire, des contes à partir, des spectacles à partir de contes traditionnels qui sont souples, tu peux les faire dans tous les lieux, parce que le conteur, c'est aussi la mobilité dans l'espace et dans le temps. Hein, tu vois, tu peux aller aussi bien dans une école, c'est très important.
Tu veux dire que ça, le risque, ça serait qu'au bout d'un moment, quand tu es habitué à des scènes avec cette
dimension du détachement, de l'éloignement,
ça pourrait arriver que tout d'un coup tu ne saches plus raconter dans un bistrot ou dans une école.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ne pas oublier que le conte a aussi, dans une de ses branches, que c'est un art de l'instant et un art de la proximité. Hein, tu vois, c'est vraiment ça, c'est relié, mais ne pas oublier que c'est aussi par exemple comme dans Les Mille et Nuits, un art de salon, un art de la place publique, hein, le hableur fait aussi partie des conteurs, donc tu vois toutes les dimensions que le conteur doit intégrer. Et puis ici en Occident, un art de la scène avec une maîtrise de la lumière, de l'écriture, de la scénographie. Donc moi j'ai essayé de l'amener à la limite du théâtre musical. Mais j'ai aussi recréé, je ne sais pas, à travers Folie Berbère, l'art des poètes, du moins à travers Majnoun et Leïla, l'art des poètes, hein, parce que c'est aussi un art de poète. Hein, il ne faut pas oublier qu'il y a un traité du XIIe siècle là, qui donne 10 formes de personnages, de conteurs et de poètes. C'est par Hariri qui veut dire le soyeux, hein, les séances, c'est-à-dire. Et après, on se pose la question aussi de la puissance de ce verbe, c'est-à-dire que si on prend Sherazade dans toute sa dimension, elle est assez fabuleuse. C'est à la fois c'est un personnage antique, au même titre que Phèdre ou Iphigénie, hein, parce que l'aboutissement de... Là, si on raconte les mille et une nuits, c'est quoi ? C'est la parole finit par triompher de toutes les barbaries. Et la parole des femmes finit par triompher de la barbarie des hommes. Hein, tu vois, si tu pousses les choses jusqu'au bout. Et donc, c'est aussi qu'est-ce que tu amènes sur scène. Quand j'amène Majnoun et Leïla, je repose l'action... Non, la pensée de l'amour dans la société arabe et l'impossible de l'amour. Au même titre que Roméo et Juliette, au même titre que aussi ce récit médiéval Tristan et Isolde, c'est la même chose. Donc des récits universels. À travers les oiseaux de Attar, je suis avec Dimos qui est grec, et puis Hafiz Shirafi, un homme qui a fui... la guerre avec les Russes en Afghanistan et qui travaille avec Peter Brook qui est photographe et qui parle le perse évidemment. Et pour moi, pourquoi je fais ces récits, parce que je me pose la question, voilà, je suis le propre rêve ou le cauchemar de mes parents, mais j'ai vécu des utopies, on est dans les années 90, j'ai des enfants et je me dis, mais qu'est-ce que ces enfants ont là comme rêve, puisque amour égale sida et travail égale chômage. Et donc j'aligne ça, ils grandissent dans un désespoir total. Et donc je me dis, je vais leur offrir un récit qui est à la fois un récit de l'utopie. Et à travers les oiseaux, c'est l'utopie, mais aussi le prix de l'utopie. Hein, c'est-à-dire que je suis un enfant de 68, des années 70, et on y a cru. Mais qu'est-ce qu'on s'est mangé dans la gueule aussi ? Hein, nous sommes les déçus de 68. Nos utopies aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le néolibéralisme. C'est tout ça, c'est-à-dire que même ce récit est toujours contemporain. Et de l'autre côté,
c'est la dimension, je dirais que c'est la dimension politique du conteur.
Là, on est dans la dimension politique du conteur, oui, subversive. Parfum de jardin andalou, c'est là comment ça arrive, les pensées de l'islam qui sont là. Alors bon, derrière, il y a une telle réflexion aussi, c'est-à-dire pourquoi les gens se réfugient dans l'islam, pourquoi, quand je raconte les mille et une nuits à des femmes, elles vont raconter à leur mari que je leur ai raconté des mille et une nuits, et puis d'un seul coup, elles vont plus venir me voir parce qu'il y a une barrière qui s'est faite à cause de la religion, ou pourquoi est-ce que quand je suis en résidence dans la ville de Vitry-le-François, où je vais faire un moyen métrage qui s'appelle Le Parfum des âmes, où quand je vais voir le maire en 1996, il y a les frères musulmans qui viennent dans les caves, qui font l'islam des caves à cette époque-là, c'est le tout début, et tu vas le voir et tu lui dis, il y a un danger pour le futur, et le maire te dit, j'ai la paix. Oui. Et donc, tu vois ce qui va en découler finalement aujourd'hui, c'est-à-dire... 10 ans après, l'islamisation dans les cités et l'islamisation des pauvres. Hein, parce que ce sont des gens qui sont sans culture. Quand je dis sans culture, c'est-à-dire de culture classique. Ils ne connaissent pas leurs penseurs, puisque c'est toujours des gens issus de la ruralité, finalement. Et donc, ils vont se réfugier dans la religion, et puis les imams savent manipuler la pensée. Hein, je sais pas, devant des délinquants, ils vont dire, viens mon frère, ici tu as une place, on te reconnaît, et ainsi de suite, et travailler les esprits. Donc par conséquent, tu vois, ça a été aussi le combat des Lumières contre le combat, contre des combats, je dirais, parce qu'il y a aussi une belle pensée de la religion, que sont la grandeur du soufisme, les lumières, de la poésie bachique ou de la poésie érotique dans la religion, quoi. Tu vois, il y a aussi cette dimension-là. Mais aussi, faut-il connaître toutes les dimensions de sa propre culture. Donc, tu vois, à chaque fois que tu poses un problème contemporain, quoi.
Ouais.
De retour au campement, Harry Goulan se terrait dans sa tente. La rumeur grondait dans le campement. « Notre seigneur est un couard. Il préfère rester dans sa tente, parler avec les femmes et se maquiller. » Harry Goulan tenait à son rang. Il a réfléchi. Puisqu'il n'était pas arrivé à le tuer par la soif, il avait une autre solution. Le lendemain matin, il convoqua son fils. « Ton esclave va dorénavant travailler pour moi. » Et l'esclave pénétra dans la tente d'Harry Goulan. « Vois-tu, j'ai un immense troupeau, un troupeau de vaches et de veaux, de chèvres et de chevreaux, de brebis et d'agneaux, de chamelles et de chamelons. Il faudra que tu empêches les petits de téter leur mère, et tu devras les emmener s'abreuver au puits des Khelyagaran. » « Au puits des Khelyagaran ? Mais ce sont nos ennemis héréditaires, Seigneur. Si je vais là-bas, ton troupeau va être rasié et je risque de mourir. » « C'est le seul puits qui ne soit pas tari dans la région. » « Sur ma tente, il y a des outres desséchées. Tu devras aussi me les ramener remplies. »« Des outres desséchées. Le proverbe dit qu'elles sont bonnes à jeter. »« Il y a aussi une jeune fille qui doit se marier, et comme la coutume le veut, elle a le droit de se gaver d'eau et de lait tant qu'elle le désire. Tu devras la satisfaire. »« Emmène aussi ma jument noire d'Ekfer. Elle doit mettre bas. Il serait redoutable pour toi qu'elle mette bas en dehors de ce campement. » « Si une de ces choses vient à manquer, je reprendrai la vie que tu possèdes. Si deux choses viennent à manquer, ta mort sera certaine. À partir de maintenant, tu travailles pour moi. Sors de cette tente. » Adélazeg est allé dans sa tente, celle de sa mère l'esclave. Il a pleuré. Il a dit « Mère, pourquoi mon ciel est-il sombre ? Je ne peux te l'avouer, mon fils. » La seule chose que je puisse faire pour toi, c'est partager ta douleur. Comme toutes les mères du désert, elle s'est saisie de son petit doigt. Elle a pleuré à sa place. La nuit lui a porté conseil. Le lendemain, il avait quelques solutions. Pour empêcher les petits de téter leur mère, il a pris les vaches, qu'il a mis avec les chamelons, les chèvres, qu'il a mis avec les agneaux, les brebis avec les chevreaux, les chamelles avec les veaux. La jeune fille, elle, ne cessait de réclamer son dû. Esclave, va me traire une coupelle de lait de chèvre. Et il s'affairait à aller traire une coupelle de lait de chèvre. Pendant ce temps-là, les chamelles retournaient avec les chamelons, les vaches avec les veaux, les chèvres avec les chevreaux, les brebis avec les agneaux. Il reprenait les vaches qu'il mettait avec les chamelons, les chèvres qu'il mettait avec les agneaux, les brebis qu'il mettait avec les chevreaux, les chamelles avec les veaux. Ils sont arrivés devant le puits des Khelyagaran. La jeune fille ne cessait de réclamer son dû. « Donne-moi de l'eau encore plus fraîche !» Et il puisait de l'eau encore plus fraîche. Il a pris les outres qu'il enroulait autour d'une pierre pour les détremper au fond du puits. Il a abreuvé les chamelles qui étaient avec les veaux. Et le soleil assistait à ce spectacle quand soudain, en regardant au lointain, il a vu une chamelle blanche avec un cavalier vêtu de noir. Il portait le bouclier de Karma. « Jeune fille, enfuis-toi avec le troupeau !» Attaché sur une chamelle qu'il a battue pour qu'elle rejoigne le troupeau. Il a sauté sur Ekfer. Il a cravaché, cravaché, cravaché. Elle ne voulait pas avancer. Il a cravaché, cravaché, cravaché. Elle ne voulait pas avancer pour la simple raison qu'elle était en train d'accoucher. Maudite pouliche, toi tu nais et moi je perds une vie. Il n'y a personne pour te remettre un cadeau. Je vais t'offrir la bague en argent que ma mère m'a offerte. » Il retira la bague de son doigt, la jeta sur le front de la pouliche, aussitôt que la bague toucha la tête. un lambeau de chair s'enroula. On dit que c'est depuis ce temps-là que tous les chevaux qui ont une rainure blanche ou une étoile sont les purs chevaux de désert. Il remonta sur le Tecfer, la cravacha. Celle-ci avait du mal à quitter sa progéniture. Il essaya de rattraper le troupeau, mais il était déjà arrivé dans le campement. Il vit Arigoulan. Celui-ci avait planté sa Tacuba en terre. « Jeune fille, as-tu manqué ne serait-ce qu'un instant de breuvage ?» D'un signe, elle lui signifia qu'elle avait été amplement satisfaite. Il vit que les chamelles étaient pleines de lait, que les vaches étaient pleines de lait, que les chèvres et les brebis étaient pleines de lait. Les outres étaient remplies. Il aurait voulu féliciter cet enfant quand son regard se porta sur sa jument d'Ekfer. Celle-ci avait minci. Où est l'enfant de d'Ekfer? Je l'ai laissé chez les Heliagaran. Tu l'as laissé chez les Heliagaran? Ô Seigneur, je ne pouvais que l'abandonner, sinon nous mettions notre vie en péril. Agenouille-toi, je vais te trancher la tête. Hein? Me trancher la tête? Tu es un homme d'honneur, tu sais bien qu'il n'y a qu'une chose qui manque. Si deux choses venaient à manquer, avais-tu dit, là tu avais ce droit. Je t'en supplie, laisse-moi 13 lunes. J'irai rechercher d'Ekfer chez les Heliagaran. Et si au bout de 13 lunes je ne suis pas de retour, fais circuler la rumeur qui est bien plus rapide que tous les vents. Moi, Relatrar chez les Heliagaran, ils n'auront pas de pitié. Ils me tailleront en pièces et tu auras ce que tu désires. Je m'en vais sur le champ. Il alla saluer sa mère. Il ne la reverrait pas pendant 13 lunes, ou peut-être jamais.
Toi, tu penses comme ça quand tu choisis un récit, tu penses comme ça aussi.
Oui, oui, oui.
À quoi ça peut être utile?
À quoi
dans ce monde
c'est relié à aujourd'hui?
Par exemple, moi, là, je suis
en train de voir Majnun et Leïla en version moderne, mais je pense aussi un spectacle pour enfants que je vais monter avec ma fille qui est plasticienne. Là, elle est en Chine en ce moment, elle revient, elle est en résidence en Chine. Et là, je vais prendre un récit traditionnel qui s'appelle « La fiancée de la pluie » chez moi. À la fois, je reviens, mais à la source de ma culture, parce que c'était du temps, on était polythéiste. On avait un dieu qui s'appelait Anzar, qui était le dieu de la pluie, et qui raconte l'histoire d'une terrible sécheresse qui s'est réellement passée, parce que là, il y a eu des cycles de grandes pluies, de sécheresse, et là, il y a eu, je pense, pendant 10-15 ans, une grande sécheresse chez moi. Et à cette époque-là, on avait pour dieu des dieux égyptiens, des dieux phéniciens, et puis des dieux berbères, dont la déesse Africa, qui va donner son nom au continent africain. Tu vois, on était aussi donc polythéistes, mais on était juifs aussi, et même kabyles, et même chrétiens comme des kabyles. Puis l'islam est arrivé, ainsi de suite, quoi, tu vois. C'est l'histoire du questionnement, du moins, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette punition de ce déluge climatique? Pourquoi est-ce qu'Anzar, qui est un être doux, qui faisait du pays des hommes libres, un pays où il pleuvait quand il fallait, il faisait beau quand il fallait, il y avait une beauté à vivre dans ce pays, une fierté et des hommes libres. Et il y a un grand congrès de druides, tu vois, c'était une civilisation druidique, et qui dit c'est la faute des hommes. Pourquoi ils brûlent les terres? Pourquoi ils détournent les cours d'eau? Et pourquoi ils abattent les forêts? Pourquoi ceci, cela? Le désert avance. Et donc, à cet instant, c'est la même chose qu'aujourd'hui, quoi, tu vois. Alors certains disent, essayons de changer les hommes. Non, d'autres disent, on va demander aux hommes de revenir des nomades et d'apprendre à vivre dans les déserts. Et il y a un homme qui dit, non, fallait voir les dieux. Et là, on ne prend pas pour un fou parce que il y a un druide qui détient les cartes du ciel. Et donc, c'est aussi pour les gens du désert comme moi, un apprentissage du ciel qui est aussi important que la terre. Tu vois, toute la poésie qu'il y a à connaître aussi bien le livre du ciel que le livre de la terre, que le livre du désert. Et donc, il va voir là le dieu Anzar et il est amoureux d'une terrestre. qui s'appelle Opta Anit, oui, en fait, qui est la figure berbère d'Isis, hein, la déesse égyptienne, tu vois. Et donc, lui finit par arranger ce mariage. Et en fait, quand on voit un arc-en-ciel, hop, chez moi, parce que quand elle s'en va là-bas, elle part avec sept rubans, on dit que c'est la fiancée de la pluie. Mais tous les ans, et ça reste encore aujourd'hui dans certaines tribus, les filles prennent des très très grandes louches taillées dans des troncs d'olivier, elles les habillent comme en poupées, elles se baladent dans les villages en chantant le dieu Hamza, et quand elles passent devant une maison, on donne un peu de nourriture, un peu de sel, elles demandent au dieu Hamza de venir donner de la pluie, et à ce que Tanit monte son ruban, tu vois. Mais c'est donc, je pars de ce de ce mythe traditionnel, je dirais, pour en faire quelque chose d'un questionnement contemporain, et dans la forme aussi, c'est-à-dire que ma fille, diplômée des Beaux-Arts et des Arts décoratifs de Limoges, là je vais demander un traitement contemporain de la mise en scène, quoi, tu vois, que ce soit à travers des installations vidéo ou à travers une étude des matières. On va reprendre aussi la technique ancienne du montreur d'ombre à travers, je ne sais pas, une fabrique de miniatures, par exemple, c'est-à-dire aussi l'art traditionnel arabe et aussi le traditionnel figuratif berbère, puisque la dynastie des Fatimides au Caire, hein, puisque ce sont les Berbères qui ont construit le Caire, ça a été la seule dynastie où dans l'islam il y avait du figuratif, quoi.
Dans un de ses campements, il a rencontré une vieille poétesse. Les poétesses n'ont de problème avec personne. Que ce soit vos amis ou vos ennemis, elles sont toujours les bienvenues. Tu recherches la trace d'Ekhelia Garan? Je ne la connais pas. Mais dans le nord, dans la Hagar, il y a un vieillard. Il connaît la trace ancestrale des quatre grandes tribus. Marche, tu verras un feu tout en haut d'une montagne. Guide-toi à sa voix, mais attends la nuit. Et il a marché en direction du nord. C'est vrai qu'en pleine nuit, il a vu un feu au sommet d'une montagne. Et il a entendu une voix. Elle lui avait dit la voix d'un vieillard. On aurait plutôt dit celle d'un enfant. Arrivé au sommet de la montagne, et là il a vu un vieillard vêtu de blanc, un vieillard qui tournoyait sur lui-même, le petit doigt pointé vers le ciel. Il était étonné. Cela devait faire des heures et des heures qu'il tournait, et il n'avait pas du tout l'air d'être ivre. Lui, il y a bien longtemps qu'il serait face collée contre terre. Le vieillard a chanté, et d'un seul coup, il s'est arrêté. Je sais qui tu es. Ton destin sera grand. Je l'ai lu dans le livre du ciel. Je ne suis pas là pour parler de destin, vieil homme. Je suis à la recherche de la trace ancestrale d'Ekhelia Garan. Si tu attends jusqu'à demain, je t'indiquerai la trace ancestrale d'Ekhelia Garan. Durant toute cette nuit, Adelazeg a veillé, et le lendemain matin, il avait préparé le petit déjeuner. Le vieillard l'en remercia. Si tu veux retrouver la trace ancestrale d'Ekhel Yagaren, il faudra que tu descendes jusqu'à cette ville qui se nomme Gao. Elle se trouve dans la boucle du Niger. Là, tu achèteras une chamelle rousse de 4 ans. Tu la selleras. Tu prendras la direction du nord et tu iras jusque dans la région de l'Azawag. Une fois arrivé dans cette région, tu rechercheras le puits qui appartient au Ekhel Yagaren. Tu attendras que le soleil soit aussi rouge que ta chamelle. De ta main, tu gratteras le flanc gauche et tu regarderas le doigt qui est roi de cette main. La suite, elle t'appartient.
C'est pas pour dire, sur le fil, avec Ahmed Mouzine.
Maintenant, ouais, ça fait 33 ans, oui, oui.
Qu'est-ce que tu dirais de... Est-ce que tu imaginais il y a 30 ans qu'il y allait avoir autant de conteurs qui allaient apparaître? Est-ce que tu imaginais que ça prendrait cette forme-là? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de ça?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que le mouvement, tu le vois naître, grandir dans toutes ces étapes, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un enthousiasme, il y a un truc utopique. Il y a un truc utopique où on en pense même que ce métier-là, on en fera un métier différent que celui des comédiens, des musiciens et des autres arts, quoi. Et puis finalement, au regard du temps, on s'est configuré et on a appliqué la même chose que les autres arts. On a des agents, on a des choses comme celle-là.
Différent, ça voulait dire quoi? Le rêve, c'était quoi?
Ben, le rêve que c'était un métier un petit peu comme une forme de confrérie avec des parrainages, des choses comme celle-là, c'est-à-dire jusque, j'appellerais ça la conférence de Carouge. Alors Carouge, c'est un château qui se trouve en Normandie et Micheline Denoc et Conteurs sont à l'initiative. C'est la première fois où on va réunir les conteurs de cette période-là en 89. Pour essayer de se donner une forme d'éthique, de penser le métier, de voir le futur de ce métier-là. Hein, et donc, à 30 conteurs...
Le concile de 30.
Oui, c'est un petit peu ça. Hein, on se pose des questions sur ce métier, parce que ça y est, les premiers festivals sont créés, ça marche bien... à la fois on intervient partout, on fait des créations, on fait des choses comme celle-là. C'est-à-dire ce métier-là, il devient extrêmement moderne, c'est-à-dire de contraditionnel, le métier arrive parce qu'il y a des conteurs comme Yannick Jolin ou Bernadette Bidot, qui amènent autre chose. Sans arrêt, il est... Et puis on se pose la question des conteurs de demain, parce qu'on n'est pas assez, on n'arrive même pas à répondre à une demande, quoi, tu vois. Il y a 30 conteurs, mais il faut en compter 70, quoi, à l'époque, en fin des années 80. Là, aujourd'hui, je crois qu'on en est à 1500, hein, comme l'avoué Bruno. Se pose la question aussi des limites de cet art, jusqu'où on peut l'amener. Donc, là, ce qui est bien, c'est tous les essais qui sont faits et toutes... les nouveautés qui sont apportées à cet art, à partir de la tradition, on fait des spectacles qui vont aller dans les théâtres, qui vont aller dans toute forme de scène. Mais c'est aussi parce qu'il y a une forme d'exigence des scènes équipées que notre métier doit évoluer à l'époque. On pense aussi la maison du conte, on pense la maison des arts du récit. Bon, le Clio existe déjà, mais... il va devenir conservatoire, c'est-à-dire l'évolution de notre métier. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de conteurs aussi. Et c'est posé la question de la formation des conteurs. Hein? Donc, à la fois, je suis content de cette évolution parce que pour être connu, il faut être visible, donc il faut être en nombre, mais à la fois aussi de la qualité qui est proposée. Hein, quelque part, c'est un métier où les gens n'ont pas forcément imaginé que c'était peut-être le plus difficile du monde, hein, qui demandait une grande culture, là, qui demandait un travail à la fois sur l'écriture, sur la mise en scène, sur la voix, sur des techniques telles que, je ne sais pas, la musique, la lumière, le théâtre, malgré que j'en veuille beaucoup à ces conteurs-comédiens. Hein, ce métier a fait appel d'air. Ce métier a fait appel d'air à ces conteurs. Hein, je pense que la première génération, très peu étaient comédiens. Il y en avait deux ou trois parmi ceux-là.
Ils étaient musiciens,
Ils venaient un peu de tout. Là, regarde, Bruno, il venait de la poésie. Et Nasser venait des arts plastiques, du cinéma. Ben venait de la chanson. Henri Gougaud venait de la chanson et de la radio. Et ainsi de suite, quoi, tu vois. Moi, je venais de la musique. Et donc, ce que j'ai amené... Et chacun amenait aussi une technique à l'autre. C'est-à-dire que, moi, oui, j'ai amené avec, je dirais, Micheline Denocq, le musicien-conteur ou le conteur-musicien, c'est-à-dire être capable de jouer et de raconter en même temps. Ça demande une double motricité, c'est donner un peu de monde. Aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns, mais il y en a très peu qui sont vraiment des vrais musiciens-conteurs, c'est-à-dire avoir à la fois une pensée musicale, une culture musicale, et puis à la fois une écriture là où ta technique est basée sur le rythme de la parole, sur la chanson, sur la poésie, et ainsi de suite. Tu t'amuses de tout ça, quoi.
Le conte, tu dirais que c'est un art à part entière ? À côté de la musique, du théâtre, de la
bien
poésie.
Sûr, pour moi, je le reconnais comme ça, bien sûr, mais si on va en haut de cette exigence-là, oui, oui. Hein, et comme je te disais, là où ça pose l'ambiguïté, c'est que le conte, c'est aussi ta propre histoire, quelque part. Hein, et donc, ça fait appel à beaucoup de gens... où c'est plus le narcissisme que se mettre au service du récit. Hein, moi, je définirais mon milieu comme ça. Il y en a qui sont au service du conte, et il y en a qui mettent le conte à leur service, quelque part, tu vois. Hein, et je dirais que le conte est plus fort que le conteur. C'est un métier de l'humilité. Hein, il faut vraiment ne pas se la ramener devant cet art-là et le regarder dans cette dimension qu'il a. Il est plus éternel que nous, mais en se mettant à son service, il vous le rend grandement, quelque part. Beaucoup de gens sont venus au conte sans avoir d'exigence en se construisant un répertoire digne de ce nom, en ayant une exigence dans la technique de conter, et de l'autre côté... en prenant cette dimension. Par exemple, raconter le merveilleux est une chose terriblement difficile. Ça demande une croyance dans le merveilleux sans égale. Hein. On est devant un Himalaya et on se dit, on va essayer de tracer un chemin, quoi. Et d'avoir un regard sur le monde.
C'est ça, être conteur, c'est
être conteur, c'est être un voyeur. Un voyeur du monde. Hein, partout où je vais, je regarde comment les gens regardent le monde, écoutent le monde, comment ils regardent l'altérité, la musicalité de leur langue, comment ils rient, et eux ils regardent la même chose en moi. Mais même dans le local, c'est-à-dire quand je vais voir un Flamand, un Basque, un Breton, ils me regardent aussi. Et on a beaucoup de choses à échanger. La musique berbère est proche de la musique bretonne, et ainsi de suite, quoi. Tu vois, c'est
cultiver.
Oui, on est toujours là. J'avais fait une intervention là-dessus sur l'acculturation du conteur.
L'acculturation.
Être acculturé, c'est pas être déculturé. C'est-à-dire qu'avec ta propre culture, tu intègres d'autres cultures, et on l'est tous acculturés. Hein, moi, j'ai ma culture berbère et ma culture française, et dans cette culture française, j'ai aussi bien la culture du Nord-Pas-de-Calais que la culture parisienne, tu vois, et en même temps la culture américaine, que à travers le cinéma, mais aussi, moi, j'adore le cinéma, je sais pas, asiatique ou indien, j'intègre toutes ces cultures-là, c'est-à-dire que vraiment... On est des enlumineurs du monde.
Il y a une ambiguïté. Pour plein de gens, la culture, c'est l'écrit.
Ah non, ça ne faut pas oublier que nous sommes le tronc commun à la fois de la littérature et du théâtre. Nous sommes la source même, nous les conteurs. Avant que les pièces ne soient jouées, les mythes antiques ne soient joués, ils étaient racontés. Avant que les mille et une nuits ne soient écrites, elles étaient racontées. Hein, tu vois, quand on joue une Phèdre, Oedipe, Iphigénie, où qu'on raconte l'Odyssée, on a cinq sens, on a aussi le regard, on a aussi le goût, on a aussi les oreilles, on a aussi tout ça. C'est-à-dire qu'on écoute le monde, on voit le monde, on sent le monde, on goûte le monde, hein, et on touche le monde aussi, tu vois. Donc tous les cinq sens, il n'y a pas que l'écriture. Hein. L'écriture, ça peut être une béquille aussi, hein, quelque part. Mais après, c'est vrai qu'on est reconnu parce que l'écriture fiche dans le temps, elle permet de repérer, elle permet de stabiliser, elle permet de... Mais les grandes écritures... je ne sais pas, si tu prends James Joyce, il raconte aussi Ulysse aujourd'hui. Si tu prends les frères Cohen à travers O Brother, il raconte Ulysse aussi au fin fond du Texas. Si tu prends... Là, tu comprends. C'est-à-dire que dans les grandes œuvres, il y a aussi des grands classiques. Si tu prends Star Wars, ce ne sont que les grandes épopées. C'est construit sur la même manière. On a énormément influencé tous ces arts-là, que ce soit la danse classique, Casse-Noisette, ou Cendrillon, et ainsi de suite. Tu comprends, il y a une puissance. Si tu écoutes Anne Quesemont, qui est à la fois conteuse, mais à la fois professeure de lettres classiques. Elle enseigne le conte et de cinéma. Quand elle dit « j'enseigne le conte, pourquoi ?» Parce que c'est le scénario parfait. C'est le scénario parfait. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Il y a une... Notre art lui-même est porteur d'une excellence qui a amené le théâtre, qui est intégré dans le cinéma, qui est intégré dans la musique, qui est intégré dans les arts visuels, qui est... Et ça, on ne prend pas la dimension, quoi.
À la claire fontaine, en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baignée. Je t'aime jamais, je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Encore rosier. que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
L'avenir de cet art, je pense que finalement le conteur va plus aller, va plus prendre la dimension théâtrale et du monologue théâtral, de, du solo, du one-man show. Je pense que. Et qui va perdre un petit peu de sa dimension mythique.
Ah, ça, c'est pas l'avenir. Rêver de cet art, alors. c'est un peu triste comme réponse.
Non, c'est une transformation à la fois pour répondre aussi à la du monde contemporain, quoi. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que des conteurs qui vont se construire des beaux colliers de répertoire et continuer à défendre la tradition avec exigence. Je pense qu'il va y en avoir de moins en moins. Oui. C'est un petit peu triste, certes. Mais
alors
on n'a aucune prise sur notre métier et ses transformations.
Alors, qu'est-ce que tu dirais si tu faisais le vieux conteur de 30 ans? Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont envie de faire ce métier-là?
De faire ce métier-là?
Oui, d'occuper cette fonction-là, de conteur. Qu'est-ce que tu leur dirais ?
Ne pas oublier d'expliciter l'essentiel. C'est-à-dire, à la fois, c'est le conte qui vient à nous quelque part, on ne le choisit pas. C'est parce qu'il a besoin de vibrer en nous. On est des instruments de musique aussi quelque part. Et s'il vient vibrer en nous, c'est qu'on doit donner du sens. Et on a besoin de l'humain pour donner ce sens-là. Et qu'à la fois, il faut être intelligent, c'est-à-dire chaque fois qu'on l'interprète, essayer de le donner avec un sens nouveau. Et puis de l'autre côté, se dire qu'on le passe d'une rive à l'autre, et que ne pas oublier que on est au service du conte, et donc toujours se dire que c'est un grand métier, mais c'est un métier de l'humilité avant tout.
D'accord, bon, merci.
De rien. C'est un plaisir, Anne-Gaëlle.
Harry Goulan est mort. Gloire à notre Seigneur. Que la paix soit sur lui. Qu'il jouisse de la paix des braves. Pendant 45 jours, tout le monde a porté le deuil. Au bout de ces 45 jours, on est allé chercher le tobol, le tambour du pouvoir. On l'a fait résonner de tente en tente. La noble Tambayat s'est présentée devant le peuple des Khelatrar avec celui qui se prénommait Adelazeg. Adelazeg est devenu le nouvel Amenochal. On dit d'Adelazeg que c'était un homme si intelligent que tout homme qui voulait s'enquérir d'un sujet qui relevait de la perspicacité n'avait qu'une seule chose à faire, aller le consulter. C'est lui qui avait la plus belle tente du campement, celle faite en potinte. C'est lui aussi qui avait la primeur de toutes les nouvelles. Chaque étranger qui se présentait devait irrémédiablement aller devant la tente du Seigneur. Un jour, alors qu'il était dans sa tente, il a entendu trois voix dans le lointain. C'étaient des arpenteurs de désert, des hommes qui avaient décidé d'abandonner l'humanité à son sort. Ils chantaient pour le ciel, les étoiles, le sable qui n'est que le minuscule reflet de notre âme. Leur trace était droite. Elle menait directement à la tente du Seigneur. Quand ils se sont présentés, il leur a donné le plus grand cadeau de la vie, l'eau. Il les a invités à prendre le thé. Il a confectionné le premier, celui qui est âcre comme la mort. Mais comme la mort est une chose grave, et quand elle est dans la tente, il n'y a pas lieu de parler. Le second, lui, était suave comme la vie. La vie est une chose trop courte pour que l'on en rie. Le troisième, lui, il était doux comme l'amour. Quand l'amour est dans la tente, toute parole est autorisée. Les hommes se sont présentés. Moi, je suis devin. Moi, je suis un marabout. Moi, je suis un homme expert dans les sciences religieuses. Si tu veux, Seigneur, nous pouvons te donner ta destinée. Ma destinée, a dit Adelazeg. Ça, c'est une autre histoire. De sable, nous avons fait un commencement de jardin. Comme de tous nos rêves, nous avons fait notre ciel.
Nous sommes à la fin de ces deux émissions consacrées à Ahmed Bouzine. Pour la musique, nous avons entendu À la Claire Fontaine, chantée par Monica Passos, Douce France par Carte de Séjour et bien sûr les fragments de l'épopée Touareg de Ahmed Bouzine. Pour ceux qui veulent tout entendre et on les comprend bien, le disque de Ahmed Bouzine est sur le site de la librairie en ligne Le Jardin des Mots. Et puis autrement, ceux qui veulent réécouter l'intégralité des deux émissions donc consacrées à ce conteur, vous faites les www.cestpaspourdire.fr. À bientôt pour une toute prochaine enquête et au plaisir.